Eh bien oui, vous êtes sur Radio Armada et bienvenue, bienvenue avec nous. Alors bonjour, on est en direct ensemble pendant une petite heure 30 même, hein Nathalie ? 1h30, on va voyager un petit peu, on va voyager dans le monde du théâtre, dans le monde du cinéma. Et pour nous accompagner, eh bien, on a une invitée qui est là, côté droit, c'est Nathalie Boileau. Bonjour Nathalie.
Bonjour, je suis très heureuse d'être là. Formidable.
C'est vrai ?
Ah oui, quel bonheur.
Eh bien écoute, merci d'avoir accepté cette invitation.
Oui, mais c'est un plaisir.
Ça nous fait très plaisir. Oui. Même si le nom de Nathalie Boileau circule beaucoup dans cette radio, ou même dans la grande salle de spectacle, mais nous, à Armada, quand on fait des belles et des jolies rencontres, quand on aime, on ne compte pas.
Ah ben merci, c'est gentil.
On insiste, on fait du superlatif dans l'image et dans les mots. Alors, merci. je vais pas me lancer dans une grande autobiographie ni souligner quelques aspects de ta démarche, de ton histoire artistique. On va la découvrir tout au long de notre entretien. On va discuter de beaucoup de choses. Simplement, ce qu'on peut-être rappeler un ou deux petits points. Tu as commencé ta carrière artistique toute petite, comme danseuse du côté de Belfort.
Oui, c'est vrai, j'ai eu la chance que ma maman décide de m'inscrire à un cours de danse, j'avais 4 ans, et c'est vrai que ma passion pour la danse est énorme, et que mon grand rêve, ça aurait été d'être une grande danseuse, mais en danse, si t'es pas tout de suite dans les grandes écoles, puis une danseuse, en fait, à 25 ans, elle est vieille, c'est terrible, alors que bon, actrice, comédienne.
On peut durer un peu plus.
On peut mourir sur scène, c'est mon projet d'ailleurs.
C'est un leitmotiv de beaucoup d'artistes, ça. Le rêve de mourir sous les sunlight.
Ah, bah écoute, voilà.
Bon. Alors donc, après cette période de petite fille danseuse, tu as un parcours universitaire de milieu en faculté aussi. Tu as été arraché un DEA d'État en psychologie. Quand même pas rien.
Bon. Mais en fait, j'ai continué la danse. J'ai fait de la danse tout le temps et comme c'était un petit peu compliqué de faire un choix par rapport à ce que je voulais faire après, je me suis inscrite en faculté de psychologie à Besançon et j'ai eu une maîtrise à Besançon et je continuais la danse à fond. Et puis en fait j'ai réussi à être admise à la Sorbonne à Paris, à l'université René Descartes, pour faire un master.
Ça a dû être un atout quand même, une licence en psychologie, pour connaître les caractéristiques, les atouts d'un personnage, bien rentrer dans un personnage, non ?
Ben, disons que je ne me suis pas contentée du master, mais j'ai fait aussi un DEA, donc un diplôme d'études approfondies en psychologie de l'art, de la culture et de l'environnement. Et on devait faire un mémoire, et moi j'ai choisi d'intituler ça « Réflexion psychologique sur le comédien ». Donc j'ai lu des tonnes de biographies de grands acteurs, je me suis documentée et en fait, quand j'ai soutenu mon mémoire, mon directeur de thèse m'a dit « Mais mademoiselle, vous devriez embrasser la carrière d'actrice ». Donc je me suis inscrite en doctorat. Et puis en fait, comme je continuais la danse à fond, j'ai découvert j'ai fait un stage de danse à Avignon et j'ai découvert le théâtre. Et donc, j'ai tout arrêté.
Et c'est là que tu as intégré tout de suite après le conservatoire d'art dramatique à Paris.
Oui, j'ai suivi les cours de Daniel Mesguich au Conservatoire national d'art dramatique où j'étais auditrice libre, où j'ai fait de très belles rencontres. Il y avait des gens comme Pierre Cassignard, comme Sandrine Kiberlin, comme plein de gens vraiment sympathiques. J'ai pas tous les noms en tête. Frédéric Pelget, plein de gens très sympas. Et surtout, ça m'a permis de me rendre compte que je voulais vraiment être actrice et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai réussi à rentrer dans le métier tout de suite.
Bravo.
Je suis allée frapper à toutes les portes et donc J'ai commencé au cinéma dans un film qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Promotion Canapé.
Alors attends, ne brûlons pas les étapes.
Non mais parce,
parce que là tu rentres au cœur du sujet, on va, on va cheminer doucement, tranquillement.
Non mais disons c'est pour expliquer que voilà.
Mais tu vas le faire, tu auras l'occasion de le faire. J'ai envie de commencer cet entretien par une question. Si je te pose la question sous cette forme-là, qui est Nathalie Boileau ? Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous définir un petit peu la personnalité de Nathalie Boileau ?
Disons que tu
es la mieux placée pour en parler.
Bah oui, c'est toujours compliqué de parler de soi, en toute humilité et en toute modestie. Mais je crois que surtout, il me semble qu'il y a une chose... Qui me caractérise, c'est la passion. Je suis quelqu'un de passionné, je vibre de tous les bouts. Et c'est vrai que je suis née le 1er avril, donc je suis bélier, et le bélier a une caractéristique, c'est qu'il fonce. Donc je fonce, et des fois, évidemment, je me prends le nez sur la porte. Mais j'ai une capacité de rebondir. Donc en fait.
Tu t'es pris beaucoup de portes
Oui.
Parce que tu dis j'ai une capacité à rebondir régulièrement.
Oui, bah disons que comme tout le monde, qui ne se prend pas des portes, mais en même temps, je dois reconnaître que je suis quelqu'un qui n'a pas tellement peur. Peut-être que c'est de moi dont j'ai le plus peur. Mais donc n'ayant pas peur,
tu as surmonté cette peur.
Comment ?
Tu as surmonté cette peur parce que tu dis que c'est de toi que tu as le plus peur.
Parce que j'ai l'impression que je veux pas dire que je suis capable de tout, mais presque, parce que j'ai vraiment conscience que on est pour un moment assez court sur Terre.
Et ça va vite.
Et moi, j'ai vraiment envie d'en profiter mais un max. Et donc. peut-être que ce qui me différencie de maintenant par rapport à mon extrême jeunesse, c'est que peut-être que maintenant j'ai confiance en moi, ce qui est assez nouveau. Et donc peut-être que je vois que je suis capable d'aller au bout de ce que j'ai entrepris. Et donc, en toute modestie, je suis heureuse. Je suis heureuse d'avoir eu la chance de pouvoir être comédienne, actrice, et de, en plus, oser faire du seul en scène, qui est quand même une pratique un petit peu risquée et audacieuse, de monter sur scène avec des textes qu'on écrit soi-même. Voilà. Donc, comment je peux me caractériser moi-même ? Je crois que je suis une amoureuse de la vie, j'aime les gens, j'aime partager, j'aime rire. Et mon rire m'a porté chance, parce que c'est grâce à mon rire que j'ai commencé à travailler dans le métier. C'était ma porte d'entrée dans le métier.
On est témoin ici à Radio Armada. Hein. Ton rire, c'est une marque de fabrique.
Oui.
Il peut y avoir 10 personnes quand Nathalie Boileau éclate de rire. On la distingue de tout le groupe.
Mais c'est vrai que j'ai commencé à travailler à France Culture avec mon rire, parce qu'il y a un réalisateur qui cherchait une comédienne qui sache rire, et puis comme il m'a entendu rire, il a dit bon ben c'est toi, donc j'ai commencé à France Culture en riant, et puis après mon rire m'a permis aussi d'avoir...
C'est ton rire qui t'a ouvert les portes.
Voilà, merci mon rire.
Tu peux le remercier. Donc sur cette première partie que tu viens de nous raconter là, aucun regret, c'était les bons choix.
Ah non, aucun regret. Non, mais je suis tellement heureuse de vivre cette aventure, parce que en même temps, donc peut-être la différence aussi aujourd'hui par rapport à mes tout débuts, c'est que j'ai compris maintenant que ce qui est important, c'est pas tant le résultat, mais que le chemin. Et donc, c'est une aventure fabuleuse, parce que c'est vrai que rencontrer une équipe comme Radio Armada et avoir la chance de jouer au portail, de rencontrer toutes les personnes qui sont autour de
c'est un compliment
radio.
Parce que c'est un lieu assez modeste quand même. Tu as joué dans des grandes salles parisiennes. Nous, on est fiers.
Oui, mais en même temps, compte tenu de la crise sanitaire, le fait que j'ai pu jouer ici, que je puisse en plus continuer à jouer ici,
tu vas nous raconter ça tout à l'heure aussi, justement. Comment là, on est en train d'évoquer un peu quelques passages de ton parcours. Dans quelles conditions et à quel moment a eu lieu la rencontre entre toi et le cinéma?
Eh ben donc promotion canapé, c'est-à-dire qu'en fait j'avais croisé Didier Caminca, un super réalisateur, et j'avais été filmée, j'avais fait une télé où j'avais le rôle principal, quelque chose qui s'appelait Tribunal, et j'avais un rôle très difficile parce que c'était une fille qui avait abandonné sa petite fille de 2 ans dans le métro, et donc c'était un rôle très émotionnel, et donc j'ai montré quelques extraits de Tribunal à Didier Caminca, et puis il m'a dit tu vas tourner avec nous dans Promotion Canapé. Donc je me suis retrouvée avec 6 jours de tournage. C'était pour moi le rêve de me retrouver avec, en plus, il y avait une superbe équipe dans Promotion Canapé. Il y avait Thierry Lhermitte, il y avait toute une brochette d'acteurs absolument fabuleux. Il y avait Zabou que j'aime énormément. Il y avait plein de gens, et Margot Abascal, Grâce de Capitani, des gens fabuleux. Et donc c'est super de rentrer tout de suite par la grande porte et de partager des émotions. Et je me suis dit, voilà, c'est super, je suis grandée dans la grande famille du cinéma. Bon,
c'est donc il n'y a pas eu beaucoup de hasard jusque-là. Tout était prémédité.
Je sais pas, mais
belle rencontre, mais il a fallu que tu te positionnes à chaque fois.
Disons que c'est vrai que je me suis démenée. Je suis pas du genre à attendre chez moi que le téléphone sonne. Et je pense que de toute façon, il faut être en mouvement. Il faut être dans une dynamique parce que on rencontre quelqu'un qui te fait rencontrer quelqu'un d'autre. Et on est des saltimbanques. Moi, je me sens assez proche d'un Molière. Voilà, je me verrais bien jouer mes pièces de ville en ville. Je pense qu'on est des artisans. On est des artisans, on est des saltimbanques, on est des véhiculeurs. Ça se dit pas véhiculeurs, non.
Si, ça se dit. On peut inventer des mots.
On a un rôle important. C'est-à-dire que on est là pour faire partager des émotions, j'oserais même dire faire réfléchir. C'est vrai que je prends mon rôle de comédienne avec une forme de responsabilité. Voilà, je pense que sans avoir un message particulier à faire passer, mais je pense que nous avons une place importante dans le monde.
D'accord, très bien. Nathalie, si on commence la promenade, les explications, quel regard poses-tu sur notre époque? Est-ce que, je sais d'abord que tu ne donnes pas, quand on t'écoute parler, tu ne donnes pas dans le fonds de commerce artistique, ni dans les lieux communs d'ailleurs, est-ce que comme certains, tu penses que le niveau et la qualité du cinéma a baissé un petit peu? Est-ce que on assiste aujourd'hui à du cinéma rapide de consommation? Les grands auteurs ont tendance à se raréfier un petit peu avec les grandes histoires qui les accompagnaient.
Je pense qu'il y a toujours des grands réalisateurs, des grands auteurs et des films magnifiques qui font réfléchir. Mais en effet, il n'y a pas que ça. Mais je reste intimement convaincue que le grand cinéma va continuer. Et en tous les cas, moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais c'est vrai qu'on est dans une époque un petit peu particulière. Il me semble que c'est une époque de transition. C'est vrai que quand on voit tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, qui sont bon un outil très intéressant, mais quand on réalise que certains monuments au niveau des acteurs, au niveau des auteurs, au niveau de gens qui se positionnent, ont du mal à exister par rapport à des youtubeurs ou des influenceurs qui tout d'un coup deviennent des gens très importants. Là, je pense que c'est vrai que ça mérite de s'interroger parce que on le voit avec la population très jeune, les ados qui...
Tu veux qui dire qu'on aurait tendance à confondre un peu la réalité et le monde virtuel ?
Ben, je pense que on est beaucoup sur le monde virtuel actuellement. Et heureusement que le théâtre existe. Et heureusement que les salles de cinéma continuent à exister. Parce que c'est vrai que moi-même, hein, je me rends compte que pendant le confinement, avec effroi, je me suis rendu compte qu'il y a eu certains moments où j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et je m'en suis rendu compte parce que comme il y a une information où te dit « vous avez passé tant de temps sur votre écran aujourd'hui », je me suis rendu compte d'une manière assez effrayée que j'avais passé beaucoup d'heures. Donc oui, je pense que... c'est un outil intéressant, ça permet de communiquer avec le monde entier. Moi, j'ai la chance de voyager, je suis allée beaucoup en Asie, aux États-Unis, et donc j'ai des amitiés, et c'est très facile de... Tu postes quelque chose sur Facebook ou sur Instagram, et tu as des retours de gens qui
instantanément.
Sont... Instantanément. Qui sont au Népal, qui sont en Thaïlande, qui sont en Inde, qui sont à Santa Fe, à New York, et tout de suite, c'est génial. Mais je pense que c'est à utiliser avec parcimonie, et moi je le vois puisque je suis maman d'une adolescente, et je me bagarre avec elle parce que bon,
elle passe trop de temps.
Mais elle est très douée aussi. Elle fait des montages sur TikTok, Snapchat. Elle fait des choses que je suis pas capable de faire. Ils sont très doués, cette génération, à partir de 11 ans, ils savent faire des choses incroyables. Mais je pense que par rapport à ta question initiale, c'est vrai que les chefs-d'œuvre au cinéma se font peut-être plus rares, mais heureusement, ça existe encore. Bon, voilà.
Je pense que l'époque est moins productive, moins créatrice.
Non. Je pense qu'elle est très créatrice parce qu'il y a plein de gens qui ont une soif d'apporter une nouvelle vision, de partager leurs idées. Donc, je pense que la période est très créatrice, mais peut-être que, comme il y a cette histoire aussi de commercialisation, peut-être que parfois on passe à côté de chefs-d'œuvre, sauf si on est très présent sur les festivals de cinéma, parce qu'il y a des festivals de jeunes auteurs, il y a plein de festivals, c'est assez génial. Disons que le monde de la création est toujours bien là et vraiment vivant, et je trouve qu'on peut s'en réjouir.
Donc il y a une période d'expérimentation. La révolution technologique est là. Comme toute transformation subite, on se jette dedans sans aucune limite. On y va à fond, comme on dit à Donf. Et il faut laisser le temps s'installer pour retrouver une certaine forme de réalité, d'expression.
Je sais pas, parce que c'est vrai qu'en même temps, je suis qui pour faire des pronostics, mais je pense que on est dans une époque qui est très intéressante, mais attention, et je pense que cette crise sanitaire est venue quand même nous mettre en garde.
On va en parler après.
Voilà, où va-t-on et que
fait-on ? Absolument,
voilà,
ça fait partie de notre entretien. Est-ce que tu reçois des scénarios alors ?
Eh bien là, oui, j'en ai reçu, hein, oui.
Ouais.
Une histoire, waouh, passionnante. Je viens de d'avoir une proposition et c'est vrai que je suis très excitée à l'idée de tourner ce film.
Ah, bah écoute, on va pas t'en demander davantage parce que tu voudras pas nous en dire davantage.
Non, pas maintenant, c'est un peu tôt.
Faut attendre un petit peu.
C'est un peu tôt, oui.
Mais on ne manquera pas de te réinviter.
Ah oui.
Et qu'on entendra quelques échos. Hein. Donc je disais tout à l'heure que tu vas et tu viens entre le cinéma et le théâtre. Comment tu choisis tes personnages, tes thèmes? Tu es auteur en plus, hein, tu écris, tu es one man show. Y a-t-il un dénominateur commun entre les thèmes que tu abordes et les personnages que tu joues?
Donc en fait moi je n'écris que pour la scène, hein. J'écris pas de
oui,
de scénario.
C'est pour ça que j'ai souligné, t'es one man show.
Ouais. Donc en fait j'ai fait un premier seul en scène qui s'appelait La Lionne de Belfort, que j'ai joué plus de 800 fois. Et en fait j'avais envie de parler d'un phénomène d'époque, c'est-à-dire la télé-réalité. Et donc j'ai créé un personnage, donc La Lionne de Belfort, qui est une petite provinciale qui s'évade de la charcuterie paternelle de Belfort pour sa vocation de chanteuse. Mais en fait, elle veut pas être chanteuse tout court, elle veut être chanteuse célèbre. Et donc, elle quitte la province pour venir à Paris, la capitale. Elle découvre le showbiz, les hommes, elle s'en prend plein la tronche. Mais comme elle a une belle âme, elle s'en sort. Et en fait, c'est une forme de clin d'œil par rapport à tout ce qui peut exister en télé-réalité où certains candidats du jour au lendemain deviennent des méga vedettes et disparaissent des fois quelques mois après. Voilà. Et ça a beaucoup plu. J'ai même été étonnée du succès que j'ai eu. Et je pense qu'en fait, le public s'est identifié à mon personnage parce que comme j'avais fait exister le père et la mère de cette jeune provinciale, je pense que le public s'est attaché au personnage que j'ai créé. Et comme en plus, il y avait une résonance par rapport à l'actualité, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette longévité, puisque j'ai joué quand même plus de 800 fois. Les dernières représentations, d'ailleurs, je les ai données en 2018.
D'accord. Ça, c'est un point de vue personnel. Moi, j'ai vu quelques extraits de La Lionne de Belfort. En revanche, j'ai vu entièrement Nathalie Boileau donne tout sauf la recette, ouais. Puisque tu l'as joué ici. Je trouve qu'entre les deux écritures, les deux personnages, ouais. Il y a quand même un brin de
similitude.
Poil de, oui, de similitude et de féminisme. Est-ce que c'est une question qui reste présente à ton esprit?
Alors moi j'ai toujours du mal avec ces questions-là par rapport au féminisme parce que comme il y a eu quand même des partis pris le féminisme comme ça outrance c'est pas ma tasse de thé.
Tu le fais au travers des personnages.
Oui,
que tu écris.
Mais moi comment dire, je suis très très sensible à la différence qui existe entre les hommes et les femmes et moi je pense qu'en fait ce qui est peut-être un petit peu compliqué c'est que on a souvent du mal à se rencontrer les hommes et les femmes parce que malheureusement on est resté quand même dans un carcan pas loin du Moyen-Âge et moi je trouve qu'il y a des choses qui ont très peu évolué même si bon on a gagné en liberté on a mais quand on étudie un petit peu l'histoire on se rend compte que il y a pas si longtemps que ça la femme elle était bonne à être ménagère elle avait pas son compte en banque elle gagnait pas d'argent et heureusement que je ne suis pas de cette époque-là parce que j'en aurais souffert terriblement et je pense que je ne serais pas restée dans ce carcan. Donc j'aurais certainement eu de gros ennuis parce que ce n'était pas forcément simple d'être une femme libre et indépendante à l'époque. Mais disons que moi parfois ce qui me laisse songeuse, c'est que je me rends compte que, et je le vois avec ma fille, qui est une gamine, elles ont un rapport par rapport aux hommes qui est un petit peu complexe. Et j'ai entendu des camarades de ma fille dire « Nous, on ne se laissera pas dominer par les hommes. Nous allons avoir le dernier mot. » Et donc, je pense que pour les hommes, actuellement, ce n'est pas très facile parce que je pense que la femme a un désir de revanche, entre guillemets, hein, et que je pense que c'est plus complexe que ça, parce qu'en fait, on est des êtres différents, et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'arriver à se rencontrer. Évidemment, il y a des problèmes, une femme gagne moins qu'un homme, et ça, c'est vrai que je trouve que c'est pas normal, Voilà, personnellement, je voudrais gagner
sur
autant.
Le plan, sur le plan financier, sur le plan aussi du pouvoir, sur le plan des responsabilités.
Voilà, sur le plan du pouvoir, sur tous ces plans, évidemment, que je rejoins mes confrères. Il y a un gros travail à faire, mais je pense qu'il y a toute une génération de femmes qui se battent pour ça. Et d'ailleurs, on voit beaucoup, j'ai été assez surprise. J'ai assisté à une rencontre entre Roselyne Bachelot et Laure Adler.
Laure Adler, oui.
Ces deux femmes qui sont pas des gamines, mais j'ai été quand même assez impressionnée de voir que des femmes de 75 ans ont autant de vivacité, d'idées assez affirmées, mais en même temps une possibilité d'avoir des échanges. Donc je trouve qu'en fait actuellement ce qui est intéressant, c'est que pour une femme vieillir, ça devient un projet qui n'est pas effrayant comme il a pu l'être il y a quelque temps, parce que à 25 ans on était vieille. Mais je pense que dans mes spectacles, en effet, surtout dans le dernier, Nathalie Boileau donne tout sauf la recette, je parle en fait, oui, de la place de la femme dans ce monde et comment on s'y retrouve avec toutes ces contraintes. Oui, en effet, en effet.
Oui, en effet, oui. Tu l'as abordé tout à l'heure, vite fait, rapidement, tu l'as même effleuré, les conditions et le contexte dans lequel nous vivons en ce moment. Tu as parlé du Covid très rapidement, comme ça.
Ouais.
Est-ce que tu fais partie de ceux qui considèrent que d'abord la culture est à genoux aujourd'hui? Et est-ce que tu penses que le spectacle, la culture, le spectacle vivant en l'occurrence, doit s'exprimer coûte que coûte?
On ne devait pas passer un coup de fil?
Ah oui, tu as raison. Quelle heure est-il? Alors, tu sais ce qu'on va faire? Moi, je propose une chose.
Oui.
On va écouter un titre, une chanson.
D'accord.
C'est une pause c'est une respiration musicale qu'on appelle ça.
D'accord.
Et tout de suite après, on appelle Gilles.
Galliot.
Gilles Galliot, qui est un grand personnage du monde.
Qui est mon collaborateur artistique.
Du spectacle et de la culture.
Voilà.
Une référence, n'est-ce pas?
N'est-ce pas?
Content qu'on va l'avoir au téléphone. Allez, on envoie la première chanson. C'est laquelle déjà? Alors, pourquoi ce premier titre?
Eh ben voilà, j'adore cette chanteuse. C'est une jeune chanteuse qui a une voix que je trouve sublime. Et je déplore qu'on ne l'entende pas plus à la radio, parce que je trouve qu'elle a vraiment du talent. Et elle se faufile. Moi, c'est vrai que je me faufile un petit peu dans la vie. Je suis comme ça. Je me faufile.
Et donc, faufilons.
Voilà, faufilons.
Faufilons. Allez, on y va, Lassane. Musique.
Toutes les notes s'enfilent, filent les filles, et tu ne sais pas, ne commencez pas. Te dos fait face aux peines. Tu choisis pile, ça tombe sur la reine. Tu te faufiles, tu te faufiles entre mes lignes. Pars par la loi devant. Ton vent m'essouffle, souffle une fois, car mes plaies s'ouvrent. Pars par ici maintenant, je veux tes doigts, je les veux tenant. Tout ce qui est à moi, tu te faufiles. Se vide et que tu me dises tout ce que j'aime, je brise. tu te faufiles entre mes lignes. Oh, tu te faufiles entre mes lignes.
Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour Gilles. Bonjour Gilles Gaillot. On est très 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 content de t'avoir en direct au téléphone. C'est un petit privilège pour nous. Écoute, Nathalie est à côté de moi. Elle est très très, elle trépigne. Elle est très contente vraiment de pouvoir dialoguer avec toi. Écoute, oui, je vais te la laisser d'ailleurs entre les mains là. Tu vas lui dire ce que t'as envie de lui dire. Et puis nous, on va prendre un grand plaisir à vous écouter là. Allez, vas-y, l'antenne est à toi.
Allô Gilles ?
Oui.
Ça va, tu vas bien ?
Écoute, on est confiné, donc comme tout le monde, si j'ose dire, j'essaie de rentabiliser le temps comme je peux, en écrivant, en tout cas en rendant ce temps utile, voilà, et pas inutile.
En tous les cas, je voulais te dire un grand bravo parce que j'ai lu quelques poèmes que tu as écrits et que tu as publiés et bravo.
Et donc,
je pense que ce recueil que tu es en train de préparer et qui va être bientôt publié, à mon avis, va être un régal. On pourra pas l'offrir pour Noël, ça sera trop tôt, hein.
Bah écoute, oui, en tout cas, c'est en bonne voie pour être édité et publié, effectivement. J'ai eu un très bon retour là récemment. Alors la poésie, c'est quelque chose, bon, qui est pas encore très 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 populaire, mais en tout cas, on se rend compte que, par exemple, chez les jeunes, de plus en plus, il y a un intérêt pour la poésie, puisque Flammarion a relancé une collection poétique, et je crois que c'est dû au fait des slameurs, des concours d'éloquence, de toutes ces choses qui concernent le langage. Donc c'est plutôt rassurant, quoi, et encourageant.
Nathalie, tu peux peut-être, pour les auditeurs qui nous écoutent, dire qui est Gilles Gaillot quand même.
Ben, beaucoup de gens le connaissent hein, dans la profession. Gilles Gaillot est quelqu'un de connu, reconnu et apprécié parce qu'il est acteur, il est metteur en scène, il a même mis en scène des opéras. Mais tu peux en parler mieux que moi, Gilles. Moi, c'est quelqu'un en fait que je croise depuis des années, et en fait, je lui ai demandé s'il voulait travailler avec moi parce que j'étais pas contente de mon spectacle. Je trouvais que ça pouvait être boosté parce que je sentais qu'il y avait un problème de rythme. Et à mon grand bonheur, Gilles a dit oui.
Il a accepté.
Et il a accepté. Ce
de te supporter.
De me supporter, ce qui m'a presque fait pleurer, ben voilà, de bonheur.
Ouais.
Et donc,
supporter, il y a deux sens dans supporter en français. Il y a supporter au sens subir, et supporter, c'est-à-dire être supporter, accompagner la personne. Donc, ça s'est passé des deux façons. Je l'ai supporté.
alors moi, je te pose une petite question, Gilles.
Elle m'a supporté aussi. Hein,
oui, absolument. Moi, j'ai vécu cette période-là, puisque vous avez travaillé ici quasiment 15 jours, 3 semaines. Hein, donc, je vous voyais tous les jours. Je vous voyais travailler dans cette grande salle, préparer le spectacle. Je sais que tu as réécrit une grande partie.
On a revu, tu es d'accord avec moi, la proposition pour que c'est ça qui est super, c'est qu'en fait tu m'as entendu parce que j'avais eu des échos comme quoi les hommes se sentaient un petit peu exclus, et donc avec Gilles on
tu
a
redonné la
réintroduit
place.
Les hommes, c'est un peu ça, on leur a mis plus de place.
Tu as réintroduit les hommes, d'accord.
Et puis on a dramaturgiquement parlant, pour employer un mot compliqué, on a aussi un petit peu réarticulé pour que ça fasse un discours homogène et pas trop dispersé, quoi, voilà.
D'accord. Et alors donc, la question que je voulais te poser, Gilles, Tu as travaillé avec Nathalie pendant toute cette période, tu l'as côtoyée tous les jours. Si je te demandais, je sais que tu n'es pas un homme de langue de bois, si je te demandais de nous définir en quelques mots la personnalité de Nathalie Boileau en tant que comédienne professionnelle.
Elle a, je dirais, la qualité de ses défauts et les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que...
C'est grandiose.
Tu vois, c'est que c'est quelqu'un qui a une énergie incroyable en tant que comédienne. Mais cette énergie, des fois, elle peut la dépasser et elle peut la disperser, si j'ose dire. Donc, c'est ce qui est intéressant, parce que c'est intéressant d'avoir une actrice devant soi qui est
pleine débordante,
qui est assez positive aussi dans le travail, qui est une bosseuse, parce que malheureusement, c'est quelque chose qui se perd un peu dans le monde du spectacle, le fait de travailler. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui revendique le travail, sans être un bourreau de travail, mais je veux dire... que les gens ne se rendent pas compte, souvent, quand ils vont voir des spectacles, tout le travail qu'il y a derrière, que ce soit en amont, le travail d'écriture, et puis ensuite, en aval, tout le travail de répétition. Tu sais, moi, j'avais un père qui était pas du tout dans le spectacle, qui était plutôt dans le monde ouvrier, et il a mis 15 ou 20 ans avant un jour de venir assister à une répétition de théâtre que je faisais. Je me souviens, c'était l'Avare de Molière que j'avais monté, et il est resté une journée à nous regarder travailler. Et à la fin, il m'a dit, mais en fait, c'est un vrai travail. Et parce que lui, pour lui, mettre en scène ou répéter, c'était simplement, tu rentres là et tu sors là, tu dis ça, et puis, mais il se rendait pas compte toute la minutie du travail et puis tout l'ouvrage qu'il y a à faire. C'est un métier d'artisan, hein, le spectacle vivant. Donc, pour revenir à Nathalie, oui, je la définirais d'abord par son énergie. Et sa folie aussi, mais la folie, elle est importante dans la créativité, parce que quand on s'extrait du réel pour faire de la fiction, c'est une forme de folie. La différence avec la folie ordinaire, pathologique, c'est que on a le billet aller-retour, alors que la folie pathologique, on a que le billet aller, on n'a pas le billet retour. Et voilà, énergie, folie, fantaisie, et je dis, c'est aussi le défaut de sa qualité. C'est-à-dire que par moments, il faut un peu la brider, ou en tout cas
recentrer un petit peu.
Voilà, recentrer, voilà, merci. C'est le mot que je cherchais. Voilà, la recentrer un petit peu. Mais bon, il vaut mieux trop que pas assez.
Oui, absolument.
Donc, voilà. Et puis, elle a accepté de faire ce travail avec moi. Elle a accepté ma façon de travailler aussi, parce que moi, j'ai une façon un peu particulière. Moi, je fais sans dénaturer, je fais quand même de l'ingérence dans l'écriture, parce que j'estime que la mise en scène, c'est pas simplement du déplacement, mais c'est aussi de la situation, et la situation, elle découle de l'écriture, donc automatiquement, on est obligé à chaque fois de revenir à la genèse et à l'écriture, quoi.
Oui, oui, absolument. Je voudrais te poser, pendant qu'on t'a sous la main, Gilles, j'ai envie de te poser une question. La crise sanitaire, ça a été un véritable drame tragique pour tout le monde, bien entendu, et en particulier peut-être pour le monde de la culture qui subit cette crise de plein fouet.
Oui, oui.
Alors,
oui,
ouais, bah, oui. Quel regard tu poses sur cette problématique?
Si tu veux, le problème de ce confinement, c'est que je trouve que nous, le monde, alors je parle du monde théâtral, parce que quand on dit la culture, c'est vaste, hein, ça va de
oui, DVD, c'est vrai, oui, oui, sont impressionnés.
Théâtre, en passant par le livre, etc. Donc, je parle de ce que moi je connais, en tout cas. Je pense que le problème, c'est que le théâtre a essayé d'être vertueux en instaurant, tout ce qu'avait demandé le gouvernement, c'est-à-dire les distanciations dans les salles, les gestes barrières, le masque, le gel hydroalcoolique, enfin, tout avait été fait. Et en fait, on n'a pas été récompensé de cette vertu et de ces efforts, puisque nous sommes encore aujourd'hui ceux qui sont, alors, juste après...
Encore très confinés.
Oui, avec les bars et les restaurants, puisque... Il faut savoir que les théâtres sont très très liés aux bars et aux restaurants, ouais. Puisqu'en général...
C'est évident.
On va boire un coup après le spectacle.
Après le spectacle, on va boire un verre ou on va dîner. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas été récompensé et on se rend compte des priorités, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la priorité du spectacle, pour faire large, vivant, théâtre, concert, etc., on s'aperçoit quand même que pour le monde la domination du marché, en tout cas, et l'organisation de la société aujourd'hui, eh ben, finalement, ça paraît non essentiel, puisque c'est le terme qui a été employé. Donc, moi, je dirais que c'est triste parce que je pense que ça met plein de créateurs dans des situations vraiment dramatiques. Moi, je connais des camarades qui sont vraiment dans des situations vraiment dramatiques, tragiques, qui n'ont pas payé leur loyer depuis des mois, qui n'ont plus de revenus, qui ne savent plus comment faire. Et je ne sais pas non plus comment on va se relever de ça. Parce que je pense qu'il y a pas mal de théâtres parisiens qui vont...
Il y en a qui l'ont annoncé, hein, qui ont mis la clé sous le tapis. Hein. Il y en a qui l'ont annoncé.
Alors, ce qu'on essaie de faire tous, quand on a la chance, comme moi, entre guillemets, il n'y a aucun orgueil à ça, d'être créateur et pas seulement interprète, bah, on essaie, comme je disais en préambule, de mettre à profit ce temps de confinement pour écrire, pour réfléchir, pour monter des projets, etc. Le problème, c'est que la visibilité à moyen et long terme, elle est totalement impossible, quoi.
Absolument.
Impossible. On n'a pas de visibilité. Quoi.
Non.
Bon, alors, il y a quand même il y a quelques signes de décrue et de début de déconfinement. Justement, par rapport à ça, te concernant, est-ce que tu peux nous dire, dès que les salles vont ouvrir, hein,
tout ça va retrouver. 15 décembre.
Oui, dans quel projet, où on pourra te voir?
Oui, mais le problème, si tu veux, c'est que d'abord, oui, les salles vont réouvrir le 15 décembre. D'ailleurs, moi, j'ai un spectacle qui va démarrer là au rond-point. Mais le problème, c'est que on va tous jouer à 18h, 18h30 et 19h. Et on sait que ces horaires-là, c'est pas les plus adaptés pour que les gens aillent au spectacle. Un. Et deux, je pense que c'est bien qu'on rouvre les théâtres. Mais je dis toujours, est-ce que le public, lui, sera au rendez-vous?
C'est
bien beau de démarrer des spectacles et d'ouvrir des salles. Mais est-ce que le public sera là? Et je pense que le public va mettre un temps à revenir au théâtre, à part les inconditionnels, si tu veux. Mais et d'autant plus que, pour citer Paris, parce que Paris n'est pas la seule ville où il y a du théâtre, mais c'est celle où il y en a le plus. Je veux dire, c'est que c'est pas les Parisiens qui remplissent le plus les salles de Paris, c'est la banlieue qui remplit le plus les salles de Paris. Et les banlieusards, ils vont peut-être pas faire le déplacement pour être à 18h30 ou 19h à un spectacle. Et essayer de rentrer dans les horaires d'un couvre-feu instauré, quoi. Même si, paraît-il, le billet va faire, comme avait dit Macron, au rodatage, c'est-à-dire qu'en fait, il va servir de laisser passer pour rentrer chez soi, mais enfin, c'est quand même, tout ça est quand même très restrictif, quoi, et tout ça est quand même un peu liberticide, il faut dire le mot, quoi.
Oui, absolument, c'est un mot qui convient parfaitement à la situation. Écoute Gilles, je vais te remercier très sincèrement d'avoir pris le temps.
Non, ça m'a permis de bavarder avec vous, c'est parfait.
Ouais, et puis
moi je me suis remise au boulot, hein, puisque je joue le le 18.
On se voit bientôt.
Oui, on se voit bientôt et je vais essayer de t'épater. Ah.
Alors si tu m'épates, bon, Gilles, écoutez, alors on va tous épater.
Je vous embrasse, Rabat et Nathalie, et je vous dis à très vite alors.
D'accord.
Nous aussi on t'embrasse et puis succès et réussite dans les prochaines périodes à venir, hein.
D'accord. Merci Gilles.
Que les dieux du théâtre t'entendent.
Allez, à bientôt. Merci.
À bientôt, Gilles.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Très bien. Alors, Nathalie.
Eh bien, j'apprécie énormément Gilles Galliot parce que, comme il l'a si bien dit, c'est vrai que notre rencontre a été fructueuse parce que on a tous les deux le sens du travail. Et moi, j'aime bosser. Je suis avide d'échanges avec les personnes avec qui je travaille. Et sur ce plan, il est absolument fabuleux. C'est un monstre de travail. Il est très exigeant. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc pour moi, grâce à ce confinement, ça a été bénéfique sur un plan. C'est que comme je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie, des fois je suis un petit peu dispersée.
Gilles vient d'en parler.
Voilà. Et donc comme j'ai été obligée de bouger un petit peu moins, au début ça a été une panique totale. Et en fait, et ben je pense que ma méthode de travail est meilleure et en fait, j'en ressors grandi. Voilà.
C'est bien, très 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 bien, c'est parfait. Comment il s'appelle, Gilles ? Je crois qu'il travaille avec Anne Roumanoff, avec pas mal d'artistes.
Oui, oui, il a travaillé avec Pascal Légitimus, avec Jean-Jacques Fannier, avec Anne Roumanoff, avec Sophie Aram, avec Alain Bernard, que je connais et que j'apprécie énormément.
Ouais, c'est pour vous dire un peu la dimension
beaucoup
du,
de gens.
Du personnage.
Il est très apprécié et, comme je disais, il a fait des mises en scène d'opéra et il a, puisqu'il est auteur, écrivain, il a eu le prix Hemingway il y a 2 ans. Non, c'est quelqu'un de très riche et j'ai beaucoup de chance.
Et de simple et modeste.
Et j'ai beaucoup de chance que cette rencontre ait pu avoir lieu. C'est ma chance de l'année 2020. Merci.
C'est entendu, c'est entendu. Alors dis-moi Nathalie, on en revient un petit peu à toi maintenant. Entre la Lionne de Belfort et Nathalie donne tout sauf la recette. Est-ce que comment entre ces deux périodes tu sens dans ta perception des choses il y a quelque chose qui a changé en toi au travers de ton métier de comédienne
Ben disons que je pense que je suis mieux canalisée. Je pense que je mesure plus aussi les enjeux, parce que c'est quand même très périlleux de monter sur scène tout seul, quoi. Faut être quand même sacrément culotté, hein. Qui suis-je pour m'exposer comme ça, en pâture, devant les gens? Mais je pense, en toute modestie, que je suis accompagnée de je sais pas, une énergie, parce que je pense que si ça n'avait été que ma volonté personnelle d'être sur scène, je sais pas si ça aurait perduré. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui je dirais pas une force divine, parce que c'est voilà, je pense que j'ai quelque chose à faire par rapport à ça, à monter sur scène. Bon, c'est vrai que c'est un désir qui remonte de longtemps,
c'est,
oui.
C'est passionnant ce que tu es en train de nous dire, Nathalie. Ah, alors, on nous signale, le technicien à la salle nous dit qu'on a un appel téléphonique. Ah. Alors, on va le prendre, Nathalie, on ne sait pas qui c'est, hein. Avec Gilles, c'était prévu. Donc on est avec Olivier là, oui, on connaît bien Olivier Npalade, un grand photographe, c'est le photographe des artistes, et pas n'importe lesquels. Hein. Bonjour Olivier.
Allô.
Allô. Tu nous entends? Allô.
Allô, oui.
Tu nous entends Olivier? Oui, c'est un peu improvisé là, donc il y a quelques réglages à faire. La salle est en train de s'en occuper. Olivier, est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends.
Eh ben écoute, je te mets entre les pattes, parce que tu as appelé non pas pour moi mais pour Nathalie, tant mieux. Je te mets entre les pattes de Nathalie. Alors. Tu peux dialoguer avec elle, vas-y.
On peut mettre un peu de son parce que j'entends pas très bien.
Salut, comment vas-tu?
On te monte le son.
Bonjour Nathalie. Alors déjà, je voulais te dire, ma chère Nathalie, que je vais venir à ton spectacle 18. J'ai déjà réservé ma place.
Wow.
Je l'ai payé parce que je pense que c'est important que les artistes vivent. Et donc, moi, il est hors de question, comme rabat, que je sois invité gratuitement. Je paye ma place. J'en ai profité pour faire un petit don à la radio en même temps. J'ai pas pu venir à ton dernier spectacle avant le confinement. Mais ce sera un très grand plaisir de venir à celui du 18.
Oh ben, je suis donc, très heureuse. Merci
voilà,
beaucoup.
Voilà, je serai dans la salle.
Super.
Et pour t'applaudir et applaudir ton œuvre.
Merci,
et,
ça fait plaisir.
J'ai eu que des très bons échos sur tes prestations. Donc, écoute, je n'ai jamais vu ton spectacle. Donc, ce sera une première pour moi. Et j'espère que ça se passera très bien. Je suis de tout cœur avec toi pour que tu aies la pêche et que tu redonnes vie au spectacle.
Oh, bah écoute, ça me
touche. Par ailleurs, mon cher Rabat, que j'aime beaucoup, et qui me soutient aussi beaucoup dans beaucoup de...
Alors,
de
précise en même temps, dans ce que tu vas me dire, là, précise aussi en même temps, dans le prolongement de ton propos, qui tu es. Pardon, j'avais allé de travers. Qui tu es et ce que tu fais, Olivier. C'est intéressant de le dire, hein. D'accord?
Moi, je suis photographe depuis 40 ans. Je suis un petit peu vieux. mais ça fait 25 ans que je me trimballe avec un fauteuil, une grosse bergère de Berry, rouge. D'ailleurs, c'est marrant. Allô?
Allô, on t'écoute, on t'entend bien.
Je me balade avec une grosse bergère de Berry. Attends, tu parles en même temps que moi?
Non, on t'écoute, Olivier, on t'écoute.
Qui a parcouru le monde, et c'est marrant parce que je suis très ami avec Michel Drucker, et j'en parlais avec lui quand je l'ai photographié, qui a piqué l'idée de l'autre sur le fauteuil rouge, parce que à l'époque où je devais le photographier, il y a 25 ans, j'avais déjà mon fauteuil, lui n'avait pas encore son canapé. Donc on en a beaucoup rigolé. J'ai eu encore au téléphone tout à l'heure, d'ailleurs. Et pour information, il était en examen, mais il va de mieux en mieux. Il va reprendre ses émissions très bientôt en février. Et je voulais parler à la radio Artmada parce que je sais que vous êtes très sensible au soutien des artistes, et des aides-soignants et de tout ce qui se passe en ce moment avec le Covid et toutes ces petites mains qui sont sous-payées et qui travaillent pour nous sauver. Donc, j'ai eu Rabat au téléphone aujourd'hui. Je vais parler d'un projet qui est en cours en ce moment avec Anne Roumanoff. Anne m'a appelé hier pour me demander si j'acceptais de mettre en vente aux enchères à Drouot quelques-unes de mes photos de personnalités, notamment Jean-Paul Belmondo, Charles Aznavour et Michel Drucker. Je les ai eus tous respectivement, sauf Charles, bien sûr. Mais je sais que Charles était un très grand ami à moi et de ma famille, donc de là où il est, je pense qu'il appréciera l'action. J'ai eu Jean-Paul Belmondo hier au téléphone, qui a tout de suite accepté cette vente aux enchères de sa photo. Par ailleurs, il m'a annoncé, et grand plaisir, et Anne est très contente de cela, que l'heureux acquéreur, quel que soit le prix de la photo qui achètera cette photo, il lui offrira une dédicace chez lui en présence de Anne et de moi et forcément quelques petits selfies. Et j'ai eu Michel aussi au téléphone tout à l'heure qui, de même, m'a dit « Écoute Olivier, tu fais ce que tu veux, j'ai une grande confiance en toi. Je connais très bien Anne, c'est lui qui a lancé Anne, hein, faut pas l'oublier, sur Vivement Dimanche, enfin sur toutes les émissions. » Et donc il m'a dit je suis au courant de l'œuvre de Anne, j'en suis très fier, surtout qu'en ce moment il se fait soigner par ses petites mains. Donc je vous dis sur l'antenne, l'association s'appelle Solidarité avec les soignants, c'est pour équiper les salles de repos des soignants. D'accord. Donc la vente aux enchères aura lieu du 10 au 15 décembre. À Drouot, en ligne, et tous les dons, toutes les participations sont les bienvenues. Moi, j'ai fourni ces trois photos, j'espère qu'elles se vendront, le prix je m'en fous, parce que moi je n'ai rien là-dessus, tout ce que je fais c'est pour aider
l'association.
Ces personnes, souvent, bien souvent, et ça rabat de ces points politiques, le sait bien, sont des gens très très mal payés et qui donnent leur temps, leur heure, qui ne comptent pas.
Pour oui, d'autant que le statut d'infirmière ces 20 dernières années a été fortement dégradé.
Pour un fort succès, je sais que Anne attend à peu près dans les 100 000 euros. Alors le matériel, c'est tout simple, hein, c'est équipé. Pour les aides-soignantes de salles de repos, c'est des machines à café, c'est des frigidaires, c'est des bons sièges, des bouquins, de la distraction, une télé éventuellement. Voilà, donc c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça.
Et voilà. Bien, très bien, Olivier. Toutes ces informations sont précieuses. D'ailleurs,
je vous entends très mal.
Tu m'entends, là?
Il faudrait parler un peu plus fort.
Allô, faudrait peut-être essayer de monter un peu le son là-bas du côté de la...
Quand je suis sur Barrio, j'entends mieux.
Ouais, bah, parce que Barrio, il a une voix grave et puissante. Hein. Il occupe tout l'espace, Barrio. Et tant mieux. Non, quand je t'ai eu au téléphone tout à l'heure, d'ailleurs, parce que ce coup de téléphone-là, on s'y attendait pas, hein, la radio du tout, hein, je l'ai vu ce matin. Je t'ai dit, bah écoute, la radio est prête à relayer, est prête à comment à parler de cet événement, de cette association, et que même si Anne Roumanoff souhaite venir sur notre web pour nous en parler, pour en parler à nos auditeurs, tu m'as dit, eh ben écoute, Rabat, avec un grand plaisir, je vais lui proposer. Et puis voilà quoi, c'est une très bonne chose. La solidarité entre tout le monde quoi. Aujourd'hui c'est une culture qui sur laquelle il faut souffler sur ses braises très fort.
Voilà.
Hein, voilà.
Et, voilà comme dirait Jean-Paul. Voilà.
Voilà ouais Jean-Paul comme dirait Jean-Paul.
Toujours, voilà.
Mais écoute Olivier, je sais qu'on te voit demain de toute façon.
Oui, je serai présent demain et puis je serai présent pour le spectacle
de Nathalie.
Le 18. Alors attention Nathalie, parce que sur Facebook, il y a une petite erreur qui marque 12.
T'étais encore étourdie, Nathalie. Hein Elle était encore étourdie, t'as.
Non, c'est pas moi.
C'est Gilles Gaillot qui a dit tout à l'heure, elle va dans tous les sens, Nathalie Boileau.
Mais non, mais
il faut
c'est
la recentrer de temps en temps.
Mais non, c'est pas moi. Moi j'ai mis le 18. Hein.
Ah.
Moi j'ai vu une annonce, c'était le 12. Et,
mais alors, oui, non, mais c'est Rabat qui s'est trompé. C'est Rabat.
Ah, ben voilà, Rabat. À vous, Rabat.
Voilà, là, ça me retombe dessus.
C'est Rabat. Non, moi c'est bien marqué le 18. Non, par contre, on va mettre à 19h30.
Oui. Mais moi, quand j'ai réservé mes places, effectivement, j'ai pris 18, donc j'ai pris 18.
Parfait, génial. Super. Écoute, super nouvelle, on t'attend.
Et puis on t'attend demain déjà, dans l'immédiat, hein, et puis on va aborder tout ça très tranquillement. D'accord, Olivier. Merci beaucoup, merci beaucoup de ton appel, ça nous fait plaisir. Et puis on se retrouve demain.
Au revoir. Et
salut.
Surtout relayer l'information pour Anne Roumanoff.
Oui, absolument. Tu peux compter sur nous. Tu peux compter sur nous.
Super.
Au revoir Olivier, à demain. Bise. Voilà, ça y est, on reprend l'antenne. Hein, bah écoutez, chers auditeurs, hein, si vous voulez nous donner un petit coup de téléphone pour échanger un peu quelques mots avec Nathalie Boileau, bah écoutez, n'hésitez pas, hein, faites-le. Il faudrait juste je vois pas d'ici là, c'est très loin, c'est des petits caractères, je vois pas. Si tu peux me faire passer le numéro sur un petit bout de papier, Alassane, comme ça je le donne à nos auditeurs et puis s'il y en a qui veulent nous appeler pour échanger avec nous en direct, enfin avec nous, avec Nathalie Boileau, il n'y a pas de souci, elle répondra à vos questions. Voilà. Est-ce qu'on s'écoute un autre titre quand même et puis on redémarre tout de suite notre entretien
d'accord,
après. Qu'est-ce que tu en penses,
qu'est-ce
Nathalie?
Qu'est-ce que tu proposes?
Ah bah écoute, on a pris les chansons dans l'ordre que tu nous les as proposées. D'accord. Parce que je précise pour nos auditeurs que toutes les musicalités qu'on écoute cet après-midi, c'est ton choix.
Ah oui, j'adore.
C'est quoi?
Serge Gainsbourg et Jeanne Birkin.
Ah, Melody Nelson.
Melody Nelson.
C'est ça, d'accord. Et pourquoi tu as choisi ça?
J'adore Gainsbourg. Quand j'étais toute jeune, que j'avais 15-16 ans, Gainsbourg. Il y a un peu du Gainsbourg en moi. J'ai un côté Gainsbourg.
Ah, vous allez dire Gainsbourg. Allez, on écoute. Vas-y, Alain.
Jamais pris dans ses bras, ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous,
Melody Nelson,
mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés. 14 automnes et 15 étés. Un petit animal. Que ça?
Melody Nelson.
Une adorable garçonne. Et si délicieux enfant que je n'ai que. Qu'un instant. société à condition sine qua non de ma raison.
Toujours en compagnie de Nathalie Boileau, hein, on continue notre petit voyage entre la comédie, le théâtre et puis le cinéma, au travers de la longue et grande carrière. Il reste tout devant toi, hein, Nathalie. On parle de ce que tu as fait, mais tu nous diras à la fin, en fait, toutes les choses qui sont à venir. Dis-moi, quand tu réussis des one-man shows comme ceux que tu as écrits, qui sont de véritables succès, hein, avec tout le côté fantaisie, humour, rire, comment fais-tu pour ensuite retourner vers le cinéma et rentrer dans des personnages dramatiques, tragiques?
Déjà, c'est très simple. Je suis comédienne, donc pour moi, c'est mon métier. J'ai aucun problème pour passer de l'un à l'autre. Et par contre, alors il y a une très 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 grande différence, c'est que quand je fais du seul en scène, là, c'est quand même costaud, hein, parce que bon, pour l'instant, au niveau des tournages, je n'ai pas encore eu de premier rôle. Donc j'ai eu la chance d'avoir quand même un second rôle à deux reprises, et j'ai eu beaucoup des rôles de troisième plan, mais très très présents. Donc la grande différence entre le seul en scène et les tournages, c'est que ben c'est quand même plus reposant, les tournages, parce que on te dit caméra, moteur, et si ça va pas, on dit couper et on recommence. Alors que quand tu mets un pied sur le plateau, pour un seul en scène ou pour une pièce de théâtre avec d'autres acteurs, puisque j'ai joué quand même avec beaucoup d'autres acteurs, hein. J'ai participé à plusieurs mises en scène de théâtre, dans le théâtre subventionné et le théâtre privé. Mais donc la grande différence, c'est que dès que tu as mis un doigt de pied sur le plateau, là tu peux pas dire couper. Tu es parti. Si tu as un incident technique, il faut que tu te débrouilles. Alors moi, j'ai un atout, c'est que je sais rebondir. Je sais que quand j'avais joué au Sentier des Halles, il y avait eu une coupure électrique. Donc je me suis retrouvée dans le noir. Il n'y avait plus rien, plus de lumière, plus de
son. Là, c'était coupé au sens propre et figuré.
Voilà, mais j'ai continué à faire le pitre. Je les ai fait rire. Et donc, l'électricité... ils ont tout remis en place. Voilà, donc la grande différence entre la scène et les tournages, donc tu peux recommencer un tournage. Il y a toute une équipe autour de toi. T'es dorloté, t'es chouchouté. Moi, j'adore quand les maquilleuses, elles me font des petits trucs, là. Elles te poupoulent.
Madame.
On vient te dire, tu vas bien, tu vas à café, on vient te chercher, on t'emmène, on te dorlote. Ah, ben ça, c'est... Voilà, donc moi, je trouve que les tournages, par rapport à du seul en scène, c'est un travail d'équipe. Le seul en scène, c'est aussi un travail d'équipe, puisque t'as un régisseur, t'as des gens autour de toi, t'es en solitaire. Donc, mais je n'ai aucun souci pour passer de l'un à l'autre. Et moi, j'adore le rapport avec la caméra. Et d'ailleurs, je n'oublierai jamais une grande actrice avec qui j'ai eu la chance de tourner dans un film cinéma réalisé par Martin Prouvost. C'était son premier long métrage, ça s'appelait Tortilla et Cinéma. Et Carmen Maura, qui avait le rôle principal, il y a eu une complicité entre nous, ce qui n'est pas toujours évident entre actrices, parce que c'est beaucoup la compétition, mais il y a eu un très beau échange entre elle et moi, et elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit, tu sais, la caméra, en fait, c'est comme un amoureux à qui tu ne veux pas montrer que tu l'aimes. Il faut être tout
En nuance, en délicatesse.
C'est des petites choses qu'elle m'a données. Mais j'ai aucun souci pour passer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que apparemment, je ne suis pas mauvaise dans les rôles dramatiques. Et je suis une bonne chialeuse.
Entre le cinéma et le théâtre, quels sont les personnages qui t'inspirent et te motivent le plus?
C'est-à-dire ?
dans le comment de dans, dans la manière de le jouer, mais surtout ce que représente un personnage dans son caractère, ou plutôt son histoire. Son histoire. Qu'est-ce que tu aimes le drame? Tu aimes plutôt le comment le rire? Le...
Non, je.
Qu'est-ce qui te motive le plus?
Ben en fait, je suis assez caméléon. Hein. J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout, et ce dont je rêve, c'est d'un personnage au cinéma et à la télévision, mais c'est plus compliqué à la télévision, parce que c'est très... On a moins de liberté à la télévision, c'est très formaté, entre guillemets. C'est, voilà, mais bon, au cinéma, je pense qu'on est, on est plus libre. Ben, mon rêve, c'est vrai, c'est un personnage où je puisse exprimer, comme l'a dit Gilles Galliot, petite part de ma folie, qui à mon avis est nécessaire pour faire ce métier, parce que si t'as pas ce petit grain, tu dures pas longtemps, quoi. Mais où je puisse aussi montrer plein de nuances, c'est-à-dire que l'humanité, l'espièglerie, la dureté, la vacherie, parce que un personnage un peu méchant, c'est intéressant. D'ailleurs, il y a des acteurs, je pense à des acteurs qui ont joué que des rôles de méchants. Moi, il y a une actrice que je respecte beaucoup, c'est Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, je trouve qu'elle a eu la chance de jouer des personnages qui étaient vraiment costauds, qui étaient ambigus, où elle était voilà. Jouer un personnage à la Jeanne Moreau, ça c'est sûr que ce serait un super cadeau, parce que moi, pour moi, c'est une très très grande actrice.
Ah, c'est un immense
très grande actrice, voilà, très, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs. Oui. J'ai eu la chance de la rencontrer, de parler avec elle, et elle a été super avec moi. Elle m'avait dit ouais mon petit, accroche-toi. Suis ta route. Et il y a aussi une actrice fabuleuse que j'ai eu la chance de voir à plusieurs reprises, c'est Annie Girardot. Annie Girardot, qui est une femme fabuleuse, qui malheureusement a été un peu abandonnée à un moment. Mais voilà, c'est des rôles à la Annie Girardot, voilà. Donc des rôles de femmes quand même assez assez forts, quoi.
Il faut des histoires pour ça.
Voilà, des histoires, voilà. Donc c'est vrai que le scénario est très important, et puis après, bon, il faut, c'est une histoire de désir, hein. il faut être bon, ouais. Et évidemment il y a l'effet, il y a le côté marketing, mais c'est pour ça que je dis que dans le cinéma d'auteur, dans le cinéma indépendant, il y a possibilité de créer des personnages qui ne soient pas dans le book office, parce qu'après il y a des histoires de bankable, donc ça devient très compliqué. Dans le cinéma indépendant, il y a moyen de faire des choses, parce que les contraintes financières des fois sont moins pesantes, parce que tout ça est un grand business. Hein,
oui, surtout voilà. Aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit de jeunes réalisateurs qui font des très belles choses avec matériel de base, parce que le matériel est beaucoup plus performant et moins volumineux qu'à l'époque, et on tourne beaucoup plus vite sur des sujets. Alors après, on en revient toujours à la même problématique. Avoir une histoire avec une forme, avec un fond, avec des vrais personnages, c'est un petit peu une denrée qui...
Oui, et puis je pense que vu ce qu'on vit actuellement dans le monde, avec cette crise sanitaire qui est universelle, je pense quand même qu'il y a eu un point positif, c'est que je pense que beaucoup de personnes se sont recentrées, moi y compris d'ailleurs, et que je pense que beaucoup d'êtres humains réfléchissent, parce que c'est vrai que c'est universel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quand même un besoin de recentrage.
Oui. Oui, tu penses que cette crise tragique, hein, elle interpelle, elle remet en question globalement. On est sous une certaine forme de renaissance, peut-être.
Mais là, je vois, par exemple, dans plein d'endroits, il y a écrit soutenons nos petits commerces. C'est vrai que tous ces petits commerces qui font la richesse des campagnes, qui font aussi la richesse dans des grandes villes, hein, comme Paris, comme Lyon, comme Bordeaux, comme Marseille. Tous ces petits commerces qui souffrent énormément, je pense que c'est important de les aider à pouvoir surmonter ce deuxième confinement. On ne sait pas ce qui va se passer. Comme l'a dit Gilles Gallieux, on ne sait pas où on va. Et je pense qu'en fait, c'est important aussi. Moi, je pense que notre système de consommation est à revoir. Parce que, en fait, je pense qu'on est, dans une surconsommation qui n'est pas enrichissante. Je pense.
Je partage assez. Pour en revenir un petit peu à toi,
Nathalie. Deviens grave là, mon Dieu.
Non, pas du tout. Non, c'est pour ça que je te ramène.
Je vais déprimer les auditeurs.
Est-ce que pour faire une belle carrière, il faut ce petit truc en plus, ce petit truc magique, ou alors tout dépend du travail, ou les deux peut-être?
Malheureusement, les deux, hein, parce que sans travail, bon, il y a des génies, hein, mais moi, je me suis rendu compte, parce que je connais beaucoup de gens, ceux qui ne travaillent pas, au bout d'un moment, ben, ils disparaissent. Donc le travail, c'est quand même la clé de la réussite.
On peut s'appuyer uniquement sur son
oui,
talent.
Oui, et puis la chance, c'est énorme, parce que ce n'est qu'une histoire de rencontre, ce métier. Ce n'est que ça. Moi, je sais que tout ce que j'ai fait, que ce soit au niveau du théâtre, au niveau de la télévision, parce que j'ai plus tourné à la télévision qu'au cinéma. Ça n'était que des rencontres, des gens qui ont eu envie de faire des choses avec moi, parce que humainement intellectuellement, il se passait quelque chose. Donc c'est une chaîne, hein, c'est des rencontres. Bon, c'est vrai que j'ai abordé une chose qui est quand même problématique depuis quelques années, c'est ce côté marketing. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je connais des producteurs indépendants de télévision qui me disent que c'est compliqué pour eux, parce que dans leur création télévisuelle, ils ont envie de travailler avec des acteurs qui ne sont pas sur les listes des gens dits bankable. Mmh. Et donc, c'est vrai que au niveau diversité culturelle, ce serait bien de laisser un peu la liberté de pouvoir montrer d'autres visages, d'autres univers, pour que ce soit un tissu plus riche. Mais ça, c'est très compliqué.
Nathalie Boileau, est-ce que tu es une femme de tract?
Oui.
À chaque fois, est-ce que tu ressens toujours ce sentiment-là, cette impression avant de monter sur une scène, ou est-ce que tu gères la pression
Non, moi, ben, Gilles Gallieux me dit qu'il n'a pas le trac, lui. Mais moi, je l'ai, et je dirais même que je l'ai de plus en plus, parce que je pense que je suis beaucoup plus consciente des enjeux. Quand j'ai commencé, pas les pièces ni les tournages, j'ai toujours eu ce trac, cette fébrilité qui peut-être est nécessaire pour moi aussi, c'est un moteur. Hein. Mm-hmm. Mais dans La Lionne de Belfort, j'avais moins le trac, et là, dans mon nouveau Nathalie Boileau Donne Tout Sauf la Recette, j'ai vraiment le trac, parce que je pense que je suis consciente des enjeux. Je suis consciente quand même que monter sur scène, c'est pas un acte gratuit, et donc je suis peut-être plus investie de cet acte, d'être sur scène seule.
D'accord. Tu as écrit tes one man shows. Est-ce que ça ne t'a jamais traversé l'esprit de faire la réalisation, de la mise en scène?
Oh non, je crois pas, parce que comme j'ai quand même beaucoup d'envie par rapport à des rôles que j'aimerais jouer, pour l'instant, j'ai plutôt envie d'interpréter. Non, par contre, il y a une chose, c'est vrai que réaliser un film dans lequel je serais à l'origine de l'histoire, en travaillant en collaboration avec quelqu'un, et que je puisse jouer dans ce film par rapport à des envies d'exprimer des choses où on ne me donne pas la parole pour l'instant, oui, peut-être, mais là, pour l'instant, j'en suis pas là. Je pense que mon désir d'interpréter des personnages dans les réalisations des autres est tellement important que voilà. Puis comme il n'y a que 24 heures dans une journée.
Le temps passe vite.
Le temps passe très vite, ouais.
Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui, Nathalie, sincèrement, est-ce qu'on peut vivre de ce métier sans être une star?
Oui. Ben, puisque moi j'en vis, je ne suis pas une star. J'en vis parce que j'arrive à alterner tournage, scène, un peu de radio. Je pense que c'est possible. Oui, je pense que c'est possible. Oui. C'est possible. Je connais beaucoup de gens qui vivent de ce métier, qui ne sont pas des stars. Parce que quand on regarde bien, les stars, il n'y en a pas tant que ça. En France, les stars, je sais pas, qui ont vraiment ce statut sur la longueur, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça.
Ma chère Nathalie Boileau, on arrive au terme de cette...
Oui, alors je voulais dire une chose, oui, j'ai tourné dans une série...
Mais j'allais te poser la question, tu m'as pris de vitesse.
Ah, d'accord.
Te dire, on arrive au terme de cette émission, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité? Quels sont tes projets à venir et où on peut te voir, où on peut te croiser?
Bon, alors déjà, on peut me voir le 18 décembre à... On a mis 19h30, hein, c'est ça,
oui.
19h30. Donc au Portail, 77 avenue de Paris à Villejuif, où là, vous allez pouvoir... voir ce que nous pouvons avoir en commun les hommes et les femmes. Ça, c'est très important, très, très intéressant, très instructif, hein, vous allez voir. Et d'ailleurs, les femmes adorent et les hommes raffolent. Voilà, bon, tout un programme. Et donc, vous pourrez me voir dans une série qui s'appelle Black and White, qui a été tournée au Sénégal et sur l'île de Gorée en novembre et décembre 2019. Et donc, ce sera diffusé les jeudis 10 décembre et 17 décembre à 21h. Et donc, c'est une saga romanesque avec des acteurs fabuleux. Il y a Olivier Chantreau qui est le personnage principal, Marraine Mdiane qui est une actrice sénégalaise très talentueuse. Il y a Isabelle Gélinas que beaucoup de spectateurs connaissent. Il y a Laurent Gréville qui est vraiment très, 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 très intéressant comme acteur. Il y a Aurélien Vic, il y a Alain Bouzy, il y a Pasquale Dinka qui fait mon mari. Enfin, il y en a plein d'autres qui sont savoureux parce qu'il y avait quand même 71 rôles. Et moi, j'interprète le rôle d'Annie Boisson qui a une histoire amoureuse avec un jeune Sénégalais. Voilà, donc c'est tout un programme. Et donc, sinon, j'ai un projet de cinéma, mais c'est vrai que c'est un peu tôt d'en parler pour l'instant. Voilà.
D'accord.
Voilà. Mais surtout, vous pouvez retrouver mon actualité sur ma page Facebook, sur Instagram, sur mon site www.nathalieboileau.com. Et puis surtout, je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. Et j'aimerais bien, si c'est possible, de passer encore une chanson. Il y en avait une qui me plaisait beaucoup.
Bien sûr.
Balance ton quoi.
Ah, Angèle.
Ouais.
Angèle. Alors, on va finir sur cette chanson, on va l'écouter tranquillement, puis après on va se séparer, on va se dire au revoir tout de suite.
Oh hein. Non, je suis triste.
Mais, déjà, tu es triste.
Oui.
En tout cas, Nathalie, merci d'avoir accepté cette invitation.
Oui, j'ai essayé.
Merci d'avoir partagé 7h30 avec nous, avec nos auditeurs. Ça a été un véritable plaisir.
Mais on n'a pas le temps de tout dire, hein. Il y a tellement de choses à dire.
J'ai encore une petite question, une dernière petite question.
Oui.
Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie d'adresser comme conseil à tous ces jeunes qui veulent devenir des comédiens?
Oh là là, comme moi je me sens une jeune comédienne, ça va être très compliqué. Non, alors une seule chose qui est super importante, il faut vraiment faire ce qu'on sent. Il faut, moi je suis partisane de vivre ses rêves et d'aller au bout. Parce que c'est pas parce que ça marche pas un an, deux ans, trois ans, dix ans, que ça ne va pas marcher. Et par contre, il y a une chose dont il faut être quand même conscient, c'est que c'est pas comme on nous laisse entendre un conte de fées. On n'est pas chez les bisounours. C'est un métier parce que c'est un métier où il faut travailler, travailler dur et s'entourer des bonnes personnes. Parce que moi, personnellement, j'ai perdu du temps parce que sur ma route, il y a eu des rencontres qui n'étaient pas forcément des rencontres des gens bienveillants. Et ça, ça existe beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc, il faut savoir se protéger et savoir que c'est quand même important d'avoir une petite réserve, une petite bourse sous son matelas. Parce qu'on peut très bien décoller très fort et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Voilà, c'est un métier très aléatoire. Mais par contre, ça vaut vraiment le coup. Si on a des velléités et qu'on sent quelque chose au fond de soi, il faut y aller, il faut foncer. Parce que on a qu'une vie sous cette identité et il faut foncer, il faut y croire. Il faut avoir le feu sacré. Voilà.
Merci Nathalie.
Je vous encourage tous à poursuivre vos rêves.
Ouais, tu reviens quand tu veux. D'ailleurs, je voudrais rappeler que tout à l'heure, c'est à quelle heure là, comment le, les...
Ah oui.
Dans une demi-heure, à 16h, il y a notre ami Eric Durand qui va prendre l'antenne avec ses invités. Et on retrouvera encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on aime à Radio Armada, on ne compte pas. Hein, on en remet des couches et des tartines.
J'ai pas eu le temps de tout dire, surtout je voulais envoyer du courage à tous ceux...
Tu vas le dire tout à l'heure.
Ah ben oui, c'est vrai.
Tu vas le dire, tu vas le dire avec Eric, tu vas continuer. Voilà, alors on va écouter Angèle, c'est la chanson, c'est ton choix, tu l'as choisi.
J'aime beaucoup cette chanson, beaucoup.
Ouais. Et ben voilà. Allez, chers auditeurs, à la prochaine émission d'Égographie. On vous préviendra dans les réseaux, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne après-midi et un bon moment avec Eric Durand.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler de faire en moi je passerai pas. Pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, parler te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
jusqu'au bout.